Bienvenue et merci d'être au rendez-vous de l'accent des autres. Voici le premier numéro de l'année, l'essentiel de l'actualité francophone avec les médias francophones publics. France Inter, la radio-télévision suisse, Radio-Canada, la RTBF et RFI. Et nous allons d'abord revenir sur l'affaire Carlos Ghosn, sur la fuite de l'ex-patron de Renault-Nissan du Japon vers le Liban. Il a la nationalité française et du coup, Éric Delvaux, les réactions sont nombreuses en France.
Oui, l'embarras du gouvernement français et d'une bonne partie de la classe politique, même si quelques voix à gauche sont tout de même plus sévères.
En Belgique, Jacques Remers, vous retenez un nom, Amaya Coppens, une jeune étudiante belgo-nicaraguayenne désignée personnalité médiatique sud-américaine de l'année.
C'est le journal espagnol El País qui l'a élue pour sa résistance au régime du président Ortega au Nicaragua.
Sur le continent africain, 2020 sera l'année du 60e anniversaire de nombreuses indépendances, Amélie Tullet.
Oui, en 1960, une quinzaine d'États accèdent à l'indépendance, à commencer par le Cameroun. Le 1er janvier, l'occasion de revenir sur une page d'histoire méconnue.
Et puis à Montréal, Manon Globinski, les calèches touristiques sont désormais interdites.
C'est par souci du bien-être des chevaux, mais au grand dam des propriétaires de calèches, que cette pittoresque façon de visiter le plus vieux quartier de la ville est interdite depuis le 1er janvier.
Enfin, la Suisse, Joël Marchetti, s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse.
Dès jeudi prochain, 1900 athlètes en provenance de près de 80 pays seront réunis autour de Lausanne, la ville hôte des JOJ.
Le gouvernement français semble donc bien embarrassé, on le disait Eric, après la récente fuite de Carlos Ghosn du Japon vers le Liban.
Oui, dès le début de cette rocambolesque histoire, le gouvernement français, comme une grande partie de la classe politique, fait profil bas. On rappelle volontiers que Carlos Ghosn, ayant la nationalité française, il doit bénéficier du soutien consulaire qui prévaut dans tous les pays du monde où existe une ambassade française. Cela dit, précise quelques ministres, si la même mésaventure s'était passée en France, si un ressortissant étranger avait réussi à fuir la justice française, nous en aurions été très fâchés. Monsieur Carlos Ghosn, citoyen franco-brésilo-libanais, n'est pas au-dessus des lois, a rappelé encore le ministre français de l'Intérieur.
Oui, cela dit, Eric, d'autres réactions politiques en France sont plus sévères à l'encontre de l'ancien PDG de Renault-Nissan.
Oui, dans l'opposition, et notamment à gauche, la fuite de Carlos Ghosn apparaît comme le symbole d'une impunité dont bénéficieraient les plus riches en France. C'est ce que dénonce par exemple l'ancienne ministre socialiste Martine Aubry. Et puis comment réagirait la France si Carlos Ghosn débarquait à Paris alors qu'Interpol a délivré un mandat d'arrêt international ? Eh bien, il ne serait pas extradé vers le Japon, c'est un principe du droit français. La France n'extrade pas ses propres ressortissants. En revanche, personne n'oublie à Paris que Carlos Ghosn est sous la menace, en France, de plusieurs enquêtes judiciaires. Pour l'instant, seules des enquêtes préliminaires ont été ouvertes il y a 10 mois. Cela concerne le financement de soirées festives que l'ancien PDG a organisées dans l'enceinte du château de Versailles. Qui a payé quoi dans ces soirées ? Mais là, c'est une autre histoire.
À Bruxelles à présent, Jacques, vous retenez donc un nom, c'est celui de la belgo-nicaraguayenne Amaya Coppens. Elle a été désignée personnalité de l'année écoulée en Amérique latine.
En effet, c'est le journal espagnol El País qui lui attribue cette reconnaissance. Il salue son courage et sa détermination. Amaya Coppens est une référence morale et politique, écrit le quotidien. La jeune femme est une figure de proue du mouvement de contestation contre le président Daniel Ortega. Étudiante en médecine de 25 ans, elle a déjà fait 2 séjours en prison. Elle a été libérée pour la seconde fois lundi, après 6 semaines d'emprisonnement. Et immédiatement, elle a réaffirmé sa volonté de poursuivre son engagement pour un changement politique au Nicaragua.
Nous allons continuer la lutte, car il y a toujours des raisons de la continuer. Nous avons besoin des prisonniers politiques qui sont toujours en prison. Nous avons besoin de justice, nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de démocratie. Et s'il faut être repris, qu'il en soit ainsi.
Amaya Coppens se dit donc prête à retourner en prison si nécessaire. La révolte gronde depuis avril 2018 au Nicaragua, petit pays d'Amérique centrale. Les manifestants accusent le président Ortega d'avoir instauré un régime népotiste et corrompu et ils réclament sa démission.
L'accent des autres.
L'accent des autres sur le continent africain, à présent, où plusieurs pays vont se souvenir de leur indépendance cette année. 60 ans d'indépendance pour une quinzaine de pays. Et d'abord le Cameroun, indépendant, Amélie, depuis tout juste 60 ans.
Oui, le 1er janvier 1960, à la radio nationale, Amadou Ahidjo annonce aux Camerounais que leur pays est désormais libre et indépendant. Une proclamation accueillie à l'époque dans un mélange de peur et d'allégresse, car cette indépendance, elle est pleine d'ambivalence. Elle est octroyée par la France à une élite camerounaise sous contrôle. Paris peut ainsi conserver son emprise sur le pays. On est aussi dans une période de violence. Le mouvement indépendantiste UPC a pris le maquis et la répression est meurtrière. Au premier plan, les autorités organisent donc des défilés. Des invités internationaux sont accueillis pour présenter une indépendance festive. Mais derrière ce masque, des attaques de part et d'autre sont menées.
Oui, et cette page d'histoire, cette mémoire finalement, Amélie, elle a encore du mal à se transmettre.
Oui, les héros de l'indépendance sont encore aujourd'hui quasiment absents des discours officiels au Cameroun. Le plus emblématique d'entre eux, c'est Ruben Umiobe. Il a été abattu en 58 par l'armée française. En 91, le président camerounais Paul Biya le réhabilite avec ses compagnons de maquis. Son fils doit attendre les années 2000 pour pouvoir ériger une stèle à son nom. Cette guerre d'indépendance, elle est d'abord passée inaperçue, puis elle a été effacée des mémoires. C'est ainsi que les auteurs de l'ouvrage « La guerre du Cameroun » la décrivent. Pour eux, le Cameroun fut, en 1960, le laboratoire de la France-Afrique. Dans leur enquête, ils écrivent que la France y a utilisé les mêmes méthodes qu'en Algérie, mais en sous-traitant partiellement le maintien de l'ordre aux autorités camerounaises.
Oui, et c'est une répression qui sera évoquée pour la première fois en France par le président Hollande en 2015, Amélie.
Oui, François Hollande a été le premier chef de l'État français, après des années de silence, à admettre une répression, je cite, contre des nationalistes camerounais et à évoquer des épisodes tragiques.
Et puis le Congo, ancienne colonie belge, fêtera aussi le 60e anniversaire de son indépendance, et ce sera, Jacques, le 30 juin prochain.
Oui, les relations entre les deux pays se sont largement normalisées depuis l'entrée en fonction du nouveau président congolais Félix Tshisekedi le 24 janvier dernier. Ce dernier était sorti vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Bruxelles et Kinshasa avaient scellé leur réconciliation lors d'une visite officielle de M. Tshisekedi en Belgique en septembre. Dans quelques jours, le ministre belge des Affaires étrangères se rendra d'ailleurs en République démocratique du Congo. Il doit notamment y rouvrir officiellement le consulat général de Belgique à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Cette réouverture est un signe politique fort à la veille du 60e anniversaire. C'est en effet la dernière pierre de la reprise normale des relations de la Belgique avec la RDC.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Direction le Canada à présent, avec une décision: finie de visiter le Vieux-Montréal en calèche touristique. La ville vient d'adopter une mesure destinée, Manon, à préserver la santé et le bien-être des chevaux.
La ville de Montréal avait annoncé son intention dès juin 2018 après une dénonciation du traitement de certains des chevaux et deux collisions entre des calèches et des voitures. Et pourtant, ce moyen de transport pittoresque était apprécié dans le quartier du Vieux-Montréal. Imaginez le bruit des sabots des chevaux qui résonnent sur les pavés de rues étroites datant de la colonie. Il y a des chevaux de travail à Montréal, Olivier, depuis 1665. Et maintenant que les dizaines de chevaux de calèche partent à la retraite, il ne restera que ceux d'un détachement de policiers à cheval de la police municipale.
Voilà donc pour la décision. Cela dit, Manon, les propriétaires de calèches n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Ils ont entrepris une bataille juridique puisque le retrait des permis de calèche touristique affecte le gagne-pain d'une cinquantaine de personnes et que la ville n'offre que 1 000 $, quoi, 700 euros de compensation. Les défenseurs des droits des animaux, eux, estiment que les calèches touristiques sont bel et bien disparus pour toujours à Montréal et voudraient bien obtenir la même chose dans la ville de Québec.
Enfin, les prochains jours seront très sportifs en Suisse. Joël, les Jeux olympiques de la jeunesse débutent la semaine prochaine.
Oui, la ville de Lausanne, par ailleurs capitale olympique, s'apprête à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse dès jeudi prochain. En tout, 1900 athlètes de 15 à 18 ans sont attendus en provenance de près de 80 pays. En tout, les JOJ, c'est 16 disciplines réparties sur 8 sites pour des Jeux qui se veulent durables et innovants, selon le président du comité d'organisation, Yann Logan.
On est en train de faire des Jeux jeux durables, on fait les nouvelles normes du CIO, donc on a un concept maintenant qu'on met en pratique, c'est de dire que les jeux s'adaptent aux régions et pas l'inverse. Donc on tient compte des régions. On fait le patinage vitesse sur un lac en plein air pour être intelligent, pour ne pas construire une halle juste pour les jeux. Donc on a fait du jeu durable. Sur toute la durée, on va faire un transport public pour les athlètes. On va sur deux pays, donc trois cantons, deux langues, huit sites. Donc c'est ça, il est déjà innovant. Et puis ensuite, quelques nouvelles compétitions.
Voilà donc le président du comité d'organisation de ces jeux. Joël, on peut quand même noter que l'enneigement a tout de même causé quelques inquiétudes.
Oui Olivier, en particulier du côté de la vallée de Joux qui accueillera les compétitions de ski de fond, mais les organisateurs sont confiants, l'enneigement sera assuré notamment grâce au snow farming, une technique de conservation de la neige. Enfin, on peut relever que les Jeux Olympiques de la jeunesse sont relativement jeunes, ils ont vu le jour en 2010, c'est la troisième édition des JOJ d'hiver après Innsbruck en Autriche et Lillehammer en Norvège.
Voilà, des Jeux Olympiques de la jeunesse en Suisse donc, mais qui passeront aussi par la France, Eric.
Oui, la flamme olympique a même traversé la station des Rousses ce vendredi dans le Haut-Jura en France, avant de rejoindre la frontière suisse. Et c'est la Française Anaïs Bescon, championne olympique du biathlon, qui a porté la flamme olympique. C'est même la première fois que ces Jeux, ces JO de la jeunesse, se dérouleront à cheval entre les deux pays.
Voilà, en Suisse et en France donc, et peut-être bientôt, pourquoi pas au Canada, le Canada qui enverra une petite délégation à ces Jeux, Manon, 78 athlètes.
Petite délégation en effet, mais une délégation remplie d'espoir, notamment en double féminin en luge, où il faudra surveiller l'équipe de Nathalie Corliss et Kathleen Nash, qui ont terminé en tête du classement de la Coupe du Monde pour les jeunes l'an dernier. En patinage de vitesse courte piste également, et au hockey, où le Canada a choisi d'envoyer une équipe masculine puisqu'il fallait faire un choix. À surveiller aussi le ski acrobatique et les différentes épreuves de ski alpin.
Voilà donc pour ces Jeux Olympiques de la jeunesse à partir de la semaine prochaine, à la fois donc en Suisse et en France. Merci à tous. C'était l'essentiel de l'actualité francophone avec les médias francophones publics, France Inter, RFI, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada et la RTBF qui vous souhaite le meilleur pour 2020. L'accent des autres vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine à la même heure.